la première messe hier matin devant un parterre ému de 2500 dirigeants, ecclésiastiques, bénévoles et fidèles de toutes conditions. La messe a duré plus de 2 heures, rythmée notamment par la consécration de l'autel, la déposition des reliques et la bénédiction du tabernacle.
Merci beaucoup Cécile Mérieux. Prochain point avec l'information à 8h. Et Louis Dauphren, votre grand témoin ce matin est Adrien Lacoste, vice-président de l'Observatoire du patrimoine religieux.
La cathédrale nous rappelle que nous sommes les héritiers d'un passé plus grand que nous et qui peut chaque jour disparaître. C'est ce qu'a dit Emmanuel Macron, qui peut-être ne croit pas si bien dire. Le chef de l'État s'est exclamé ainsi dans son discours qui a pu marquer les esprits. Et avec Adrien Lacoste, qui est vice-président de l'Observatoire du patrimoine religieux, on va essayer de savoir ce qu'il en est précisément. Il y a 40 000 édifices en France, 4 000 sont en grande souffrance. La France n'est pas à la hauteur du discours qu'elle tient sur son patrimoine. Bonjour Adrien Lacoste.
Bonjour Louis Dauphren.
Alors évidemment, vous avez vécu comme tout le monde, j'allais dire comme tous ceux qui ont pu vibrer avec Notre-Dame de Paris, ce week-end tout à fait extraordinaire, ce week-end resplendissant, époustouflant, qui cache aussi une grande misère.
Absolument. Absolument. La France aujourd'hui compte, comme vous l'avez indiqué, à peu près 40 000 édifices, dont 10 000 sont protégés au titre des monuments historiques, soit classés, soit inscrits. Et à peu près, l'ordre de 3 à 4 000 édifices sont dans un état de souffrance, c'est-à-dire que pour certains, il y a un arrêté de péril, pour d'autres, on n'en est pas très loin. Des édifices qui sont bien souvent situés dans des zones rurales, et c'est pour ça qu'on parle de Notre-Dame qui cache un peu la forêt. On a découvert cette cathédrale extraordinaire, éblouissante, et lorsque vous passez le périph', et parfois il n'y a pas besoin de passer le périph', hein, vous découvrez des édifices qui sont dans des états absolument catastrophiques.
C'est-à-dire ? Qui menace de s'effondrer ?
Qui menace de s'effondrer, absolument.
À Paris même, vous en avez ?
À Paris même, je pense quand même que si vous allez à Saint-Augustin, on a refait une façade. Hein, alors, la façade est très belle. Hein. Alors dès que vous passez le portail d'entrée, c'est quand même une situation assez catastrophique. Le dôme, qui est un dôme métallique, a besoin de renforts structurels. Et ce sont, à Paris, vous avez des églises qui sont de taille très importante. Donc, de moyens très importants. Donc, il n'y a pas que en zone rurale. Vous avez des zones urbaines qui ont, je pense par exemple, à la ville de Rouen. La ville de Rouen qui est couverte d'églises de taille très importante. Cette ville a tout ce patrimoine religieux à sa charge et doit donc l'entretenir. Et donc, il faut qu'on trouve des systèmes de financement.
Est-ce qu'aujourd'hui, Adrien Lacoste, l'effet Notre-Dame de Paris va jouer sur une réflexion qui pourrait être engagée sur cette question, ou cette réflexion a-t-elle peut-être déjà lieu ?
Cette réflexion, je dirais, elle a déjà été en partie engagée, déjà sous Frédéric Mitterrand en 2012, avec le lancement d'un grand plan cathédral, dont Notre-Dame de Paris avait déjà bénéficié, avec la restauration de tout le patrimoine campanaire qu'on a découvert dans le cadre de la restauration de Notre-Dame. Et puis, je crois que Notre-Dame de Paris a permis de mettre en lumière la situation de ce patrimoine religieux sur lequel bon nombre des rédactions de vos confrères, de Radio Notre-Dame, que ce soit en titre de PQR ou PQN, se sont intéressés. Et puis, il y a eu la mission d'information parlementaire qui a été initiée en 2022 par le sénateur Ouzoulias et qui s'est donc penchée sur l'état de ce patrimoine religieux et voir quelles solutions pourraient apporter dans les années à venir pour pouvoir accompagner les maires qui sont bien souvent propriétaires de ce patrimoine religieux dans le cadre de la restauration et de l'entretien de ce patrimoine.
Pierre Ouzoulias était venu en parler. Qu'avez-vous pensé des conclusions de ce rapport ?
Moi, ce que je pense, c'est qu'il y a des pistes qui sont ouvertes. On parlait juste avant l'antenne d'édifices qui sont partagés.
Le multi-usage. L'affectataire peut décider, Adrien Lacoste, au gré de telle ou telle affinité, de dire « Tiens, je partage mon église avec d'autres personnes qui ont besoin d'un espace ».
C'est possible.
C'est laisser aller les libertés de l'affectataire.
Les seules libertés de l'affectataire, en tous les cas, ça en fait partie. Je prends un exemple.
On ne peut pas sous-louer quand même.
On ne peut pas sous-louer. Non, puisque je vous rappelle quand même que la loi de 1905 régit les rapports entre le propriétaire et l'affectataire. Le propriétaire reste quand même le maire pour les églises communales. Pour les églises construites après 1905, c'est les associations diocésaines, donc elles font ce qu'elles veulent. Et puis, on a 86 cathédrales en France où c'est l'État qui garde la main sur son patrimoine. Et après, l'affectataire, je dirais, lui, c'est très clair. Il reste maître chez lui et maître de ce qu'il doit faire et ce qu'il veut faire dans le bâtiment qui lui est attribué.
Alors la question, Adrien Lacoste, c'est de savoir, entre l'affectataire et le propriétaire, qui prend la responsabilité en fait d'engager quoi que ce soit dans l'histoire? Est-ce que c'est le désir de l'affectataire de dire, ben voilà, c'est moi qui fais vivre par le culte, c'est moi qui fais vivre cet édifice par le culte, et donc je désire ce qu'il soit évidemment le mieux entretenu possible? Est-ce que c'est l'État qui, ou le maire qui est propriétaire et qui se dit « je ne peux pas laisser ce bâtiment se délabrer » ou chacun se renvoie-t-il la responsabilité de telle sorte que ce patrimoine finalement tombe en décrépitude au bout du compte ?
On se rend compte d'abord, dans les faits, que tout cela fonctionne dès lors qu'il y a de bons rapports entre le propriétaire et l'affectataire, c'est-à-dire entre le maire et le curé de la paroisse. Ce qui est important, parce qu'on en parle souvent, c'est on a une baisse de la pratique. On a une baisse démographique dans les zones rurales, ça c'est un fait. On a une baisse de la pratique et aussi des ordinations, donc on a de moins en moins de prêtres aussi pour desservir un nombre d'édifices absolument incalculable. Ce qui est important, c'est de maintenir une présence chrétienne de foi dans ces édifices, à travers de groupes de prières. Moi, je pense qu'il faut aller vers des usages qui sont beaucoup plus tournés vers la culture et très respectueux des lieux. Et qu'on ne parte pas dans des usages partagés qui sont un peu délirants. Même si, sous l'Ancien Régime, les cathédrales étaient aussi des halles. On faisait le marché dans la cathédrale qui devenait halle pendant quelques heures, et ensuite l'édifice reprenait sa dimension religieuse, cultuelle.
Donc ça ne serait pas opposé à la vocation de l'édifice d'y faire autre chose?
Je pense que c'est une piste de réflexion. Et en plus, il peut y avoir, dans ce cadre de lieux partagés, des subventions complémentaires qui peuvent venir aider les maires et les affectataires dans l'entretien de ce patrimoine religieux. Et alors, je tiens à souligner, il y a un gros problème dans ce pays quand même, parce que on restaure, mais on n'entretient pas. Et l'entretien, c'est quand même ce, par exemple, vers quoi le Danemark est allé. On a des édifices qui sont dans un état catastrophique parce qu'ils n'ont pas été entretenus, et souvent à cause de l'humidité. Un édifice fermé, c'est un édifice qui est voué à être, je dirais, détruit dans les années à venir, si, parce qu'il y a l'humidité, il y a la mérule, il y a toutes ces choses-là, en fait, qui rentrent en ligne de compte. Et en fait, si on ferme cet édifice, si on ne l'aère pas, si on ne fait pas venir des gens à l'intérieur, si on ne le chauffe pas à minimum, ces édifices sont voués à un moment donné à être en difficulté et en péril. Et donc l'entretien, c'est aussi des élus et des affectataires qui se rendent régulièrement sur les lieux pour faire un état des lieux, des constats de ce qui va, de ce qui ne va pas, phaser éventuellement des travaux avec des études, et puis entretenir tout simplement, plutôt que de se retrouver un jour, 50 ans plus tard, devant un édifice qui a deux doigts de s'écrouler. Pour rappel, Louis Dauphresne, entre 2010 et 2023, c'est à peu près 26 édifices en France qui ont été détruits. Je ne reviendrai pas sur cet épisode d'Abbeville. Et nous, à l'Observatoire du patrimoine religieux, c'est ce contre quoi on se bat. On ne veut pas que les édifices soient abattus et détruits.
Quand c'est détruit, c'est à la demande de la mairie ?
C'est à la demande de la mairie, puisque la mairie, à un moment donné, prend un arrêté de péril quand l'édifice n'est plus ouvert au public, que tout menace de s'écrouler. C'est ce qui s'est passé à Abbeville, d'ailleurs, hein, puisque l'église était entièrement encerclée de barrières, puisque tout tombait. À un moment donné, on a pris cette décision, et nous, on trouve ça absolument catastrophique. Et plutôt que d'arriver à des solutions radicales comme celle-ci, il faut absolument entretenir et restaurer ce patrimoine religieux.
C'est paradoxal, Adrien Lacoste, parce qu'aujourd'hui, on sait que le clocher du village, même si les fidèles ne sont plus au rendez-vous, il y a un attachement quasiment irrationnel parfois au clocher, au cimetière, à tout ce qui peut représenter un point d'attache.
Absolument. Alors en plus, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'églises en France ont été construites au 19e siècle. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu une activité agricole très intense, un déplacement de population et une densification de nos villages. Donc il a fallu construire des édifices parfois un peu à la hâte, bien souvent mal construits, avec des matériaux qui ne sont pas très pérennes dans le temps. Et ces édifices, aujourd'hui, sont gigantesques. Absolument gigantesques. Et tous ces édifices-là, il faut les entretenir. Une commune aujourd'hui n'a plus les moyens d'entretenir une église qui fait la taille d'une petite cathédrale, parfois qui même plus grande que la cathédrale, un petit village de 2000 habitants, une petite ville de 2000 habitants, à une cathédrale qui est plus grande que une église plus grande que celle de que la cathédrale de Saint-Flour dans le Cantal.
Alors justement, Saint-Flour, il y a peut-être une solution.
Ah, absolument.
Expliquez le système.
Alors le système, il est simple d'ailleurs, Madame Dati s'y est intéressée très récemment. Ce qui est intéressant, c'est de parler d'un système de mécénat privé. Et là, on peut parler de l'Église qui parfois peut être à l'initiative de mécénat privé, comme dans le diocèse de Saint-Flour, ou
dans le Cantal.
Dans le Cantal, absolument. Je salue son évêque, Monseigneur Noblot, et le chanoine Boyer.
Vous avez une tante peut-être à Saint-Flour.
Pardon ?
Vous avez une tante à Saint-Flour peut-être ?
Pas du tout. Non. Pas du tout. Non, non. Absolument pas, mais j'y ai une partie de mon cœur parce que c'est un département qui est cher à mes yeux et qui est magnifique. D'ailleurs, je vous invite j'invite nos auditeurs.
Le Cantal, c'est superbe.
Et en fait, le diocèse, avec les amis de la cathédrale, ont mis en place un système de mécénat avec des jambons. Donc, c'est un accord qui a été trouvé avec une filière locale pour faire maturer des jambons dans les tours de la cathédrale de manière extrêmement respectueuse du lieu. Et ensuite de les vendre. Et les recettes...
À l'endroit même.
Alors, ils sont maturés dans les tours de la cathédrale, et ensuite, les amis de la cathédrale, vous pouvez vous rapprocher des amis de la cathédrale pour pouvoir acheter ces jambons, et les produits servent à financer la restauration de tout le mobilier de la cathédrale. Et tout le mobilier a été restauré grâce à ces subsides.
Donc ça veut dire que les tours sont en location?
Pas du tout.
Non.
Les tours ne sont pas en location,
alors,
puisque le diocèse est affectataire, l'État est propriétaire. Il y a eu une convention d'accord entre l'État et donc la DRAC et le diocèse pour pouvoir permettre à ce projet d'exister. Le président de la République commande ses jambons à Saint-Flour.
Ça, c'est justement sur la foi que ce type de mécénat peut voir le jour un petit peu ailleurs, sur d'autres modes. Il y a eu aussi des questions, je crois que c'était à Villers-sur-Mer, en Normandie, mais il faudrait que je puisse m'assurer auprès de Christophe Maury, l'un de nos chroniqueurs, qui nous avait raconté cette histoire. Là, pour le coup, c'était le clocher qui était éventuellement affecté à des antennes téléphoniques.
Oui.
Mais là, c'est plus invasif comme système.
C'est plus invasif. Il faut que ce soit à l'intérieur du clocher et non pas
à l'extérieur.
Pas visible, voilà.
Ça avait suscité des tas de polémiques locales. Mais c'est vrai que l'intérieur du clocher en soi, c'est un espace qui peut être utilisé.
Absolument.
Ça a été répété en France ?
Alors, l'histoire des jambons, ça a été répété aussi en Auvergne, dans une autre église, je crois, dans le Puy-de-Dôme. Alors du coup, la DRAC est un peu les cheveux droits sur la tête en se disant « mais c'est pas possible, on peut pas installer des jambons dans toutes les églises de France pour... » Bon, c'est une initiative en tous les cas qui est intéressante, je vous ai expliqué, parce qu'elle a permis la restauration à Saint-Flour du patrimoine de la cathédrale, qui appartient quand même à l'État. Elle a permis aussi l'élaboration d'un nouveau mobilier liturgique, dû à Gucci, un grand artiste qu'on a connu notamment au travers de l'aménagement liturgique qu'il a pu réaliser à la cathédrale de Chartres. Donc, l'Église est à l'initiative de très bonnes choses, et je tiens à le dire.
Est-ce qu'aujourd'hui, Adrien Lacoste, ces idées-là sont partagées quelque part ? Est-ce qu'elles phosphorent ? Est-ce qu'elles fermentent quelque peu dans l'esprit de l'affectataire de l'Église catholique, qui se retrouve aujourd'hui un petit peu en frontal sur cette question de la gratuité ou de ne pas accepter la gratuité d'un édifice, pour sortir justement de ce clivage-là ?
Moi, je pense que l'incendie de Notre-Dame, le rapport aux Oulias et tous les débats qu'on peut mener aujourd'hui sur ce patrimoine religieux montrent qu'il y a des idées qui maturent en ce moment un peu partout, hein, que ce soit au niveau de l'association des maires, au niveau de la conférence des évêques où on vient de conclure les états généraux du patrimoine religieux. D'ailleurs, ça aboutit, les états généraux du patrimoine religieux, à l'édition d'un guide sur le mécénat. je pense que vous avez dû l'avoir en main, et qui peut permettre aux affectataires de mettre en place avec les propriétaires un certain nombre de leviers pour pouvoir lever des fonds pour entretenir et valoriser le patrimoine religieux qui sont à leur charge.
Cette question, Adrien Lacoste, de la gratuité de l'édifice ou de l'entrée payante à Notre-Dame, vous estimez que c'est clos aujourd'hui comme polémique avec le pape François qui a fait valoir dans son message que la gratuité devait l'emporter ?
Le pape François a son point de vue. En tous les cas, ce que je peux dire, c'est que en France, il y a la loi de 1905. Elle est claire, elle établit les rapports qui sont entre le propriétaire et l'affectataire. Dans ce cas précis, l'État et le clergé parisien. Je pense surtout que Notre-Dame de Paris a un statut particulier. Madame Dati a eu le courage, par rapport à un certain nombre de ses prédécesseurs, de s'intéresser au sujet du patrimoine religieux. Et elle le fait avec beaucoup, beaucoup de détermination. Et je tiens à saluer son engagement sur ce terrain-là. Elle a proposé des pistes, celui de la projection de, avec les 15 millions de visiteurs de Notre-Dame, le billet à 5 euros et le 75 millions versés à l'année, enfin, levés à l'année.
De recettes.
C'est une piste. Je ne dis pas qu'au niveau de l'Observatoire du patrimoine religieux, on la valide.
Mais vous n'excluez pas.
On n'exclut pas. Mais, par contre, on n'exclut pas que d'autres pistes puissent être amené sur la table.
Sur l'initiative de l'affectataire aussi, hein, c'est un peu le message de évidemment. Ce matin, c'est-à-dire c'est à l'affectataire aussi de prendre les initiatives.
Toutes les bonnes idées sont bonnes à prendre. À partir du moment où on met tout sur la table, on réfléchit et de manière à ce que tout le monde y trouve son compte et dans le respect et du propriétaire et de l'affectataire. Sinon, ça ne peut pas marcher.
La meilleure idée en 20 secondes pour vous, la meilleure idée d'un au-delà des jambons de Saint-Flour.
Au-delà des jambons de Saint-Flour, un mix des deux. Les jambons de Saint-Flour, et puis peut-être trouver une solution pour faire payer une partie de Notre-Dame. Alors en plus, à Notre-Dame de Paris, les tours sont payantes, mais c'est le CMN. Il y aura des pistes à trouver, et je suis persuadé que Mgr Ulrich et l'État sauront les trouver.
Merci beaucoup Adrien Lacoste, vice-président de l'Observatoire du patrimoine religieux.
Merci beaucoup à tous les deux, à tout de suite la prière du matin.